BW. Magazine Santé.
Cœur, animaux, fleurs, autant de motifs que certains choisissent de tatouer sur des parties de leur corps. Le tatouage est une pratique devenue un véritable phénomène de société qui prend de plus en plus d'ampleur. Nous verrons si cela est sans danger pour la santé. Dans ce magazine, il sera également question du konzo, une maladie provoquée par la consommation d'une variété de manioc très amère. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Se faire tatouer dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le phénomène gagne de plus en plus de terrain, notamment à Abidjan, la capitale. Mais les tatoués ignorent les risques auxquels ils s'exposent face aux outils et encres utilisées. Toutes les encres ne sont en effet pas propres et peuvent contenir des métaux lourds ou encore d'autres substances éventuellement cancérigènes. Ces molécules peuvent aussi apparaître à cause du soleil ou lorsque le pigment utilisé pour le tatouage se dégrade dans le derme. Elles peuvent également, à partir de la peau, gagner d'autres organes via le système lymphatique. Pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène à Abidjan et les dangers encourus, Julien Day, notre correspondant sur place, a rencontré tatoués, tatoueurs et médecins.
J'aime bien les tatouages parce que je trouve ça sexy sur certaines parties du corps. J'en ai trois.
Alors pour moi, le tatouage a une signification artistique. Donc là, j'ai une clé de sol parce que j'adore la musique.
Ils sont nombreux comme Anna Bintou et Atie Brian, 31 et 28 ans, à se faire des tatouages au cou, à l'épaule, au bras, sur les seins, à la hanche, au mollet et sur les parties visibles ou non visibles du corps. Les raisons de leur démarche expliquées par Dr Guy Sosten Abo, médecin généraliste et urgentiste.
Effectivement, le tatouage de nos jours est un phénomène de mode. De plus en plus de jeunes s'y adonnent. On définirait déjà le tatouage comme l'introduction de colorants ou de pigments sous la peau afin d'établir un dessin permanent. Et cela se fait par le biais d'aiguilles.
Pour mieux cerner l'ampleur du phénomène du tatouage, nous voici au premier étage d'un bâtiment en plein cœur du marché d'engrais. C'est ici que Sori Tatou, ex-étudiant des Beaux-Arts, a installé son officine de tatouage. Dans la salle d'attente, 6 jeunes dames. Chacune attend son tour. Parmi elles, Aude, venue se faire un tatouage temporaire.
Un tatouage en fait, tatouage des sourcils. Là. J'aime bien ça. Ça m'évite de maquiller le matin. Vu qu'il faut aller travailler très tôt, pas besoin de se maquiller. C'est vite fait quoi. C'est bon, c'est de l'art.
Marquer une peau noire ou très brune peut poser problème. C'est pour cela que Dr Guy Sosten préconise de prendre quelques précautions avant tout tatouage.
Les dispositions particulières qu'il faudrait prendre, c'est déjà dans un premier temps s'assurer que la peau sur laquelle on va poser le tatouage est une peau saine. C'est une peau qui ne comporte pas de points de beauté ou une anomalie particulière, une masse, une petite tumeur. Parce que ces lésions initiales-là pourraient évoluer vers d'autres lésions plus graves. Secondairement, le tatouage s'est introduit par le biais d'une aiguille des pigments dans la peau. Donc ça suppose qu'on franchit la barrière cutanée. Donc c'est la porte d'entrée de certaines bactéries ou de certains virus. Il faut s'assurer des conditions de bonne hygiène.
Lorsque toutes ces dispositions et conditions d'hygiène ne sont pas respectées, le tatouage peut virer au cauchemar. Mademoiselle Betikwa, 25 ans, que nous avons rencontrée chez Sori Tatou, nous raconte.
J'ai vu une copine qui s'est fait tatouer, mais quand elle a fini, elle était enflée.
Selon le docteur Guy Sosten Abo, le tatouage peut être une porte grandement ouverte à certaines infections et autres maladies.
À travers le tatouage, on peut contracter une infection bactérienne qui peut être d'abord localisé au niveau du site du tatouage et se disséminer dans tout l'organisme et faire ce qu'on appelle une septicémie, premièrement. Deuxièmement, ça peut être la porte d'entrée d'infections plus graves, telles que l'hépatite virale B ou l'hépatite virale C, ou encore le VIH.
Auparavant, le tatouage était effectué avec de l'encre de Chine ou des encres à base de charbon. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, on parle d'encre contenant des pigments industriels. Certaines personnes comme Pamela s'interrogent peu sur la composition de l'encre utilisée pour le tatouage.
Vous savez, quand on aime quelque chose, on ne prend pas vraiment le temps de dire est-ce que. Enfin, on se fait, puis voilà, après on verra ce que ça donne.
Sori, jeune tatoueur qui reçoit en moyenne une dizaine de clients par jour, tente pour sa part de rassurer.
L'encre a été conçue spécialement pour les tatouages professionnels et puis c'est important.
Voilà. Est-ce que l'encre n'a pas une conséquence nocive sur la santé?
C'est testé médicalement.
Si il est possible de prouver que les aiguilles et les gants utilisés sont à usage unique, il est en revanche difficile de dire que l'encre achetée généralement en ligne ne contient pas des éléments nocifs à la santé. Docteur Guy Sosten Abo.
Pour la plupart des tatoueurs, c'est des encres que parfois ils commandent sur des sites internet. Pour beaucoup, ils ne savent même pas la provenance de ces encres. Ils ne savent même pas comment on les fabrique et quelle est la matière qui les compose. Et il est décrit des réactions allergiques à certains de ces encres. Des réactions allergiques qui peuvent être immédiates et disparaître après, ou même encore des réactions allergiques qui peuvent être immédiates et se prolonger dans le temps. Donc l'encre même, parfois, peut constituer une source de problème en cas de tatouage.
Le constat aujourd'hui est clair. Le phénomène du tatouage est très en vogue en Côte d'Ivoire. Et si rien n'est fait, face aux dangers que courent les personnes qui se font tatouer, majoritairement des jeunes, ces pratiques pourraient contribuer à la propagation de certaines maladies telles que le VIH et les hépatites virales. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Après la Côte d'Ivoire, direction à présent la République démocratique du Congo pour parler du Konzo, une maladie qui paralyse les jambes et le dos. En RDC, c'est surtout dans la province de Kwango, dans l'ouest du pays, que le Konzo est régulièrement signalé. La maladie est provoquée par la consommation d'une variété de manioc très amère ayant une forte teneur en cyanure, un poison extrêmement toxique. Le docteur Nicole Machukano est chef de service au programme national de nutrition en RDC. Elle nous explique comment procéder pour consommer le manioc amer sans risque pour la santé.
Tout le manioc contient le cyanure, mais la teneur diffère d'une variété à une autre. Avant la préparation, on doit détoxifier ce manioc. C'est ce que nous appelons communément le ruissage. La première façon de faire, c'est de tremper le manioc pendant 4 jours ou 3 nuits dans l'eau. Dès que le manioc est ramolli, on le sèche au soleil aussi pendant 4 jours ou 3 nuits. Donc pendant 4 jours au moins, on les laisse au soleil pour qu'ils sèchent.
Alors, quand, après consommation du manioc amer, une personne se retrouve atteinte du Konzo, comment cela se manifeste-t-il? Quels sont les symptômes?
Le Konzo, ça survient un peu brusquement parce que le malade, il consomme ce manioc, il ne se rend pas compte. Du coup, il est frappé parce qu'il y a la manifestation de difficultés dans la marche. Donc, médicalement, nous parlons d'une paralysie spastique. Donc, il se retrouve en difficulté de marcher. Il y a d'autres symptômes comme les problèmes d'audition, une dysarthrie, il n'arrive pas à bien articuler le mot. Il y a aussi des atteintes de vision, mais il y a aussi cette marche qui est frappante, qui est cette marche spastique avec l'échinisme. On marche pratiquement sur la pointe de pied. Mais actuellement, les études actuelles ont aussi montré une atteinte cognitive qui s'installe déjà en infraclinique. Ça veut dire, avant même qu'on voie la paralysie spastique, qui est très visible, il y a déjà une atteinte sur le plan cognitif.
Et comment la maladie est prise en charge?
La prise en charge, au fait, comme dans toutes les autres paralysies, ce qui est d'abord important pour nous, c'est prévenir qu'on ne tombe pas dans cette paralysie. Parce que dès qu'on a cette paralysie, il reste peut-être à faire une rééducation fonctionnelle ou à aider ces malades à être plus autonomes en donnant certains appareillages orthopédiques. Il n'y a pas vraiment de traitement curatif, comme on peut le dire. C'est juste des traitements qui peuvent permettre à soulager le malade.
Mais avant d'arriver à l'étape de la paralysie, est-ce qu'on peut détecter assez tôt la maladie et éviter qu'on en arrive là?
Dans les zones qui sont déjà des zones qu'on peut dire des zones endémiques, il faut déjà prévenir. Donc dès qu'on a un cas Konzo qui est visible, il faut déjà prévenir pour tout le monde. Donc il n'y a pas de moyen de détecter ça beaucoup plus tôt parce que, en fait, le malade, il ne va pas consulter. La survenue est brusque. Ce qu'il va constater, c'est cette paralysie, donc cette difficulté du coup de marcher. Et là, il est déjà atteint. Mais puisque dès qu'on a un cas Konzo, ça alerte un peu la communauté en se disant qu'est-ce qui se passe, comment se fait le rissage, quel est le type de manioc qu'ils sont en train de consommer. Et là, la plupart de nos interventions dans ces différentes zones, c'est d'éviter l'apparition d'un nouveau cas. Donc, nous agissons plus dans les sensibilisations. Et puis, il y a le wetting method, qui est une méthode qui consiste à humidifier la farine avant la préparation du foufou.
Alors, les populations sont quand même informées hein, sur le problème, mais cela fait des années que la maladie continue de sévir. Pourquoi on n'arrive pas à l'endiguer complètement?
Ce n'est pas d'un coup que quelqu'un arrive à changer ses habitudes alimentaires. En fait, le Konzo sévit dans un contexte d'abord de pauvreté, et on se retrouve en insécurité alimentaire. Les familles ne savent plus attendre de faire le rissage en prenant le temps qu'il faut pour détoxifier le manioc. Du coup, ils consomment ces maniocs parce qu'ils sont en insécurité alimentaire. Ils ont besoin d'atténuer leur faim. Donc, ils prennent ces maniocs qui est mal ruis et ils les apprêtent rapidement, ils les consomment, alors que c'est encore toxique pour eux. Donc c'est plus le contexte de pauvreté et d'insécurité alimentaire. Aussi, c'est ce qui fait qu'il y a une corrélation entre le Konzo et la malnutrition, parce que finalement, c'est dans ces zones que sévit la malnutrition assez récurrente.
Et c'est avec ces explications du docteur Nicole Machucano, chef de service au programme national de nutrition RDC, que prend fin ce numéro de votre magazine Santé. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.